Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast des Bulles de l'Histoire. Un podcast mythologie. Nous allons nous intéresser au cycle olympien. Nous allons nous intéresser à la vengeance implacable d'Athéna, surtout quand celle-ci est dirigée vers une de ses prêtresses préférées et fait totalement basculer la vie de celle-ci dans l'horreur. Je vous propose de vous raconter l'histoire de Méduse. Méduse, cette gorgone dont Persée a été prendre la tête pour au final sauver sa mère des griffes acérées et libidineuses du roi Polydectès. Je vous propose de vous raconter combien Méduse a basculé de par ses charmes et de façon tout à fait involontaire, sans même comprendre réellement ce qui lui arrivait, dans une vision d'horreur. Je vous propose de vous raconter comment une déesse du panthéon de l'Olympe, une des principales olympiennes, est responsable du destin presque le plus tragique de toute la mythologie grecque. Rejoignons, si vous le voulez bien, Méduse, Euryalée et Sthéno. Bonne écoute! De Méduse, nous avons conservé en notre mémoire populaire cette image repoussante, presque terrifiante, cette image qui nous fait frissonner, cette image qui nous ferait presque craindre de croiser son regard, de peur de finir pétrifié comme l'ont été tant de héros, tant d'hommes, prêts à tout pour essayer d'affronter la créature. Malheureusement pour eux, le regard flamboyant de celle-ci a figé leur dernière expression en une statue de pierre des plus disgracieuses. Méduse est condamnée. Elle est condamnée à être cet être de cauchemar, à être ce monstre, presque à l'égal de l'hydre de Lerne et d'autres chimères, tant craint par les populations. Et pourtant, Méduse n'est pas née monstre. Elle n'est pas née ainsi. L'avenir de Méduse semblait flamboyant. Elle était promise dès son plus jeune âge à un futur merveilleux. Mais tout va très vite basculer. Tout va basculer à cause de la rancœur de deux dieux, la rancœur de Poséidon et d'Athéna, et leur affrontement millénaire qui se poursuit par mortels et demi-dieux interposés. Ces deux-là n'arrêtent jamais de se disputer, et les dommages collatéraux sont bien trop souvent présents, et Méduse sera un de ces dommages. Méduse est apparentée aux divinités primordiales que sont Gaïa et Protos. Les parents de Méduse sont des divinités mineures de l'océan. Méduse a deux autres sœurs, Sthéno et Euryalée. Et à la différence de Méduse, qui elle est mortelle, Sthéno et Euryalée sont immortelles. Méduse a aussi trois autres sœurs, les Grées, qui elles ont la particularité d'être nées vieilles. Elles ont une autre particularité, elles vivent recluses, encore dans le monde des humains, dans une grotte. Elles se partagent un seul œil avec lequel elles ont la capacité d'entrevoir l'avenir, et une seule dent qui leur sert à déchiqueter les quelques mortels qui se risquent à aller les solliciter. Méduse est apparentée à ces personnages exceptionnels, et pourtant elle n'est pas née monstre. Elle est née mortelle et elle est née surtout humaine. Méduse était un bébé et ensuite une toute petite enfant très jolie et très vive, promise à un avenir radieux, une enfance et une jeunesse sans tâche, ponctuée de jeux avec ses sœurs et avec son meilleur ami. Méduse ne pense pas à mal. Elle se sait jolie et belle. Elle voit les regards de plus en plus insistants que chacun lui porte au fil des années, tant son corps se transforme et tant sa beauté ne fait que grandir de jour en jour. Or, il arrive un âge où l'avenir de Méduse doit se décider. Celle-ci s'est toujours sentie proche des divinités de l'Olympe auxquelles elle et ses parents et ses proches rendent un culte quotidien, comme tous les mortels de l'époque. Leur quotidien est rythmé par les processions, les offrandes au temple, les bénédictions quotidiennes. Et Méduse y tient. Elle ne met pas longtemps à décider de quel sera son destin. Il sera tout voué à une seule divinité, à une déesse qui pour elle est la plus flamboyante de toutes, Athéna. Athéna est la fille préférée de Zeus, et d'ailleurs il l'enfanta lui-même puisqu'elle est sortie casquée de sa tête. Athéna est le pendant féminin de Arès, qui est le dieu de la guerre. Athéna est donc la déesse de la guerre, mais pas que. Elle incarne également la sagesse. Athéna n'est pas, comme Arès, une déesse qui se remplit de toute la violence et qui se baigne dans le sang de ceux qui s'affrontent dans des combats à mort, non. Athéna aime la guerre, mais aime la guerre d'usure, une guerre où la ruse a toute sa part, une guerre où l'on peut pousser les esprits jusqu'à leur dernier retranchement et les faire plier sans verser une seule goutte de sang. Athéna est aussi belle qu'elle est impitoyable, et sa fureur a su se déclencher au fil des siècles pour retomber plus violemment encore sur tous ceux qui avaient osé la défier. Mais pour l'instant, elle n'a pas l'intention de se venger de Méduse. Elle la regarde du haut de l'Olympe avec toute la bienveillance dont elle peut faire preuve pour une des prêtresses qui la sert. Elle voit au fil des mois, au fil des années, la beauté de Méduse devenir de plus en plus flamboyante. Il faut dire que Méduse attire les foules. C'est pour elle, et presque non pas pour Athéna, que bon nombre d'Athéniens, que bon nombre de Grecs se rendent au temple préféré de la déesse, celui sur l'Attique, celui d'Athènes, pour venir y déposer des offrandes. Et cela commence à contrarier certainement Athéna. Mais elle ne réprimande pas Méduse, parce qu'elle sait que celle-ci n'est pas responsable des réactions qu'elle peut inspirer à tous ceux qui croisent son regard, d'autant qu'elle assume sa fonction de prêtresse avec toute la dévotion qui est nécessaire. Athéna n'est pas la seule du reste à porter un regard intéressé sur Méduse. Un autre dieu est bien décidé à en faire sa conquête. Cette autre divinité, qui va n'avoir de cesse au fil des millénaires de s'opposer à Athéna et de lui chercher une querelle constante, c'est Poséidon, son oncle, le frère de Zeus, et le dieu des océans. Poséidon entend bien soumettre Méduse et lui voler sa pureté, parce que n'est pas prêtresse d'Athéna qui veut, figurez-vous. Athéna attend de ses servantes qu'elle reste pure, qu'elle reste vierge, afin de garantir toute la pureté de son temple, et encore plus de celui qu'elle préfère entre tous les autres, celui sur l'Attique, celui qu'elle a fait construire au-dessus de cette ville pour laquelle elle s'est embattue contre Poséidon, justement, et c'est elle, Athéna, qui a fini par l'emporter, au point que les habitants de la région ont renommé la ville en son honneur. C'est devenu Athènes, et Poséidon avait promis de se venger, et il a eu tout le loisir de ruminer sa vengeance. Et lorsqu'il s'aperçoit de la beauté de Méduse, il commence à mûrir un plan machiavélique, un plan qui va emprisonner Méduse et faire basculer son destin dans l'horreur. Méduse va être l'instrument de la querelle entre Poséidon et Athéna, et Poséidon entend gagner cette bataille. Et peu importe si Méduse subit les foudres de la déesse, il entend se faire respecter, il entend faire baisser la tête à Athéna. Les dommages collatéraux, il n'en a strictement rien à faire. Nous allons donc voir comment la pauvre Méduse va devoir se confronter à Poséidon et si elle va finir par s'en sortir. Poséidon a mûri sa vengeance au fil des mois, au fil des semaines. Maintenant, il est prêt. Il a observé Athéna. Il a observé le regard rempli de bienveillance, bien que quelquefois contrarié, quand celle-ci semble constater que les mortels ne viennent pas de prime abord pour lui rendre hommage, mais pour les beaux yeux, pour les beaux cheveux qui hypnotisent tous ceux qui regardent Méduse. Mais la prêtresse reste tout en dévotion envers sa déesse. Elle ne commet aucun geste qui pourrait la pervertir et qui pourrait porter atteinte au temple. C'est bien pour cela qu'Athéna ne la punit pas. Or, Poséidon a bien l'intention que la situation change. Il veut faire sortir Athéna de ses gonds pour relancer une nouvelle dispute, une nouvelle guerre, et lui faire payer l'affront d'avoir dû, lui, renoncer à ce territoire sur l'Attique qu'il convoitait depuis toujours. Peu importe si cette prêtresse en subit les conséquences. Méduse se promène au bord de l'eau. Elle se promène tranquillement lorsque l'eau se trouble. Alors, tout à sa surprise, elle voit apparaître, vêtu en majesté, celui qu'elle reconnaît tout de suite comme étant le dieu de la mer. Poséidon en personne se présente devant elle. Et il ne lui laisse pas le temps de dire une parole, qu'il l'attrape, qu'il la plaque contre lui et qu'il souhaite s'unir à elle par la force. Méduse crie, Méduse se débat, Méduse le repousse, elle refuse de lui donner satisfaction, elle ne veut pas sacrifier sa chasteté et donc pervertir son honneur et contrarier sa déesse, car elle sait que si un tel écart venait à se savoir, elle ne pourrait plus reparaître devant Athéna. Sa destinée, sa fonction de prêtresse lui deviendrait tout simplement impossible. Alors elle n'a de cesse que d'essayer de se dégager de l'emprise plus forte de Poséidon, qui est beaucoup plus costaud, beaucoup plus puissant qu'elle. Et pourtant, elle y parvient. elle parvient à le frapper. Elle lui assène une violente gifle qui laisse Poséidon décontenancé quelques instants. Ces quelques instants qui vont permettre à Méduse de se dégager de l'emprise de Poséidon et de courir aussi vite qu'elle le peut. Elle se précipite au temple d'Athéna. Elle rentre dans le temple et s'agenouille aux pieds de la statue de la déesse. Elle est en pleurs, elle supplie Athéna. Elle supplie Athéna de lui venir en aide, de la protéger des ardeurs de Poséidon. Mais elle ne reçoit aucune réponse, aucun signe. Athéna est absente. Et voilà déjà qu'elle entend le pas lourd de Poséidon entrer dans le temple. Il n'a pas une grande distance à faire et le voilà déjà presque tout à côté de Méduse. Celle-ci est déjà recroquevillée sur le sol, alors il termine de l'allonger et la prend de force. Méduse ne fait que pleurer. Ses pleurs retentissent en des sanglots longs et terribles à l'intérieur du temple. Poséidon, une fois sa besogne accomplie, tout à sa satisfaction, laisse Méduse. Il n'a ni un regard, ni un mot pour elle. Sa vengeance est accomplie, il peut regagner son palais, mais avant, il souhaite regarder la réaction d'Athéna et souhaite assister à sa vengeance. Et elle ne va pas tarder à venir. La pauvre Méduse est dans un triste état. Elle n'arrête pas de supplier la déesse d'intercéder en sa faveur. Elle essaie de lui expliquer qu'elle n'a pas choisi, elle, d'offrir à Poséidon sa virginité et sa pureté. Et la statue se transforme en Athéna, qui apparaît plus flamboyante qu'elle ne l'a jamais été, tout en majesté, présentant ses symboles, le bouclier, son égide, son casque, son armure, qui étincelle encore plus que tous les feux et les rayons d'Hélios. Athéna est furieuse. Ses yeux semblent lancer des éclairs. Méduse ne parvient même pas à la regarder. Elle ne s'y risque pas. Elle supplie Athéna, mais Athéna la fait taire d'un geste. Après tout, n'est-ce pas un juste retour ? Méduse était trop belle. Cette beauté et surtout sa vanité, qui ne faisait qu'exercer sur les foules qui venaient rendre leur culte à Athéna, cette beauté et ses élans qu'elle transmettait sans le vouloir au peuple n'ont fait que confirmer à ceux-ci des idées, des intentions qui certes n'étaient pas celles de Méduse qui leur ont fait croire qu'elle pouvait avoir envie de plaisir, de luxure, qu'elle pouvait avoir envie de s'offrir comme Athéna l'avait vu s'offrir à Poséidon, et peu importe si celui-ci l'a prise de force. Athéna, pour la punir, la métamorphose. Méduse hurle de douleur. Elle hurle tout ce qu'elle peut hurler. Et de ce qu'elle arrive à voir, son aspect est difforme. La jeune fille flamboyante des débuts a laissé place à un monstre hideux, un monstre qui porte certes toujours les traits d'une femme pour le haut du corps, mais le bas du corps est celui d'un serpent et les serpents se retrouvent dans sa chevelure. Méduse n'est plus un être humain. Méduse n'est plus celle qui ameutait les foules, celle qui ensorcelait tous ceux qui croisaient son regard, bien qu'elle ne le fasse involontairement. Maintenant, tous ceux qui vont croiser le regard de Méduse ne vont ressentir que de la répulsion et de la terreur. Tant à la métamorphose, Athéna a ajouté une malédiction. Quiconque croise le regard de Méduse sera aussitôt changé en pierre. et cela plonge Méduse dans une solitude qui petit à petit lui fera perdre de plus en plus trace de son humanité. Et pourtant, elle n'a pas oublié son passé. Elle n'a pas oublié ce qu'elle était. Et de cette flamme, de ces quelques souvenirs, elle va pouvoir, dans ces moments de solitude, y trouver, aux confins du monde, dans cette partie de la Grèce, abandonnée de ses habitants, retrouver dans ce temple primordial qu'elle découvre et qu'elle aménage comme étant sa cachette sur l'île de Sériphos, un peu de tranquillité et une douleur un peu moins forte. C'est ce que nous allons voir maintenant. Méduse s'est donc réfugiée aux confins de la Grèce, dans ces territoires inoccupés, abandonnés par leur population. Elle s'est réfugiée sur l'île de Sériphos. Et sur cette île, elle y trouve un très vieux temple qui semble abandonné. De ce temple, on ne trouve trace de nul prêtre, de nulle offrande depuis des lustres. Et plus Méduse observe ce temple, plus il lui semble beaucoup plus ancien que celui dans lequel elle exerçait encore ses talents de prêtresse il y a quelques semaines, quelques mois, tout au plus, avant que la vengeance implacable d'Athéna ne s'abatte sur elle et ne la condamne à cet exil interminable et à cette solitude qu'elle subit. Plus elle découvre les intérieurs de ce temple, plus elle en fait la visite, plus elle découvre qu'il a été consacré à une divinité particulière. Et cette divinité, c'est justement Athéna. Sa surprise est grande lorsqu'elle découvre le buste fracturé de la déesse. Elle retrouve ses souvenirs de prêtresse et commence à rendre à Athéna le culte qu'elle lui vouait jusqu'alors, alors que celle-ci était encore en Attique, en activité, et qu'elle rendait pour les foules les oracles de la déesse et toutes les bénédictions nécessaires, et acceptait les offrandes. Bref, elle oublie un peu de son animalité de gorgone pour redevenir celle qu'elle était alors, Méduse, juste une belle prêtresse. Et pourtant, son animalité revient bien trop souvent et bien trop vite, parce que la rumeur de son établissement, la rumeur de la présence d'un monstre dans cette région aux confins de la Grèce, c'est trop vite, trop bien vite répandu. Et voilà-t-il pas qu'une foule de mortels, de demi-dieux, de héros n'a de cesse de vouloir pourfendre le monstre, n'a de cesse de vouloir s'illustrer, de vouloir ramener sa tête et de vouloir l'affronter. Les jardins qui sont au-devant du temple sont jonchés de statues qui conservent la mémoire de ces personnages, tous figés dans une seule et même posture, tout emplis de terreur. Dernière expression après avoir confronté le regard terrible de Méduse. La première victime de ses yeux a été le propre ami de Méduse, son propre meilleur ami, venu la secourir, la sortir des griffes de Poséidon. Celui-ci n'avait eu pas trop de difficultés à se débarrasser du jeune homme qui l'a envoyé valser. Ce pauvre garçon s'est donc retrouvé écroulé sur le sol, inconscient durant plusieurs heures. Et lorsqu'il a repris ses esprits, il s'est précipité à l'intérieur du temple d'Athéna, prêt à apporter tout son réconfort et son soutien à Méduse, qu'il adore depuis l'enfance. Méduse refuse lorsque son amie la voit dans cet état. Elle n'a de cesse de vouloir le renvoyer, mais le jeune homme ne veut pas bouger. Méduse tourne la tête, et voilà qu'elle croise le regard du jeune homme et que celui-ci se fige aussitôt. Méduse prend donc la décision de s'enfuir. Elle doit s'enfuir, elle ne peut croiser le regard de personne. C'est ce qui va la pousser à rechercher un refuge qui soit le plus loin possible de toute civilisation. Et l'île de Sériphos semble remplir justement toutes ces conditions. Elle en fait donc son QG. Elle trouve donc ce temple primordial qui était déjà consacré à la déesse Athéna et semble, dans les moments de calme, reprendre sa vocation de prêtresse. Celle-ci n'est dérangée que par les multiples visites de tous ceux qui veulent se frotter à la Gorgone. Et il va y en avoir un de plus, un que Méduse ne considérait même pas comme un possible adversaire de taille. Et pourtant, c'est celui qui va libérer Méduse. C'est celui qui, de par son épée, de par son bouclier, de par ses armes qui lui ont été offertes par Athéna et par Hermès, qui va permettre à la jeune femme d'enfin de ne plus souffrir. Ce demi-dieu, ce héros, c'est Persée. Nous allons voir maintenant comment ces deux-là vont se confronter et ce qu'il va advenir de tous les deux. Avant d'en venir à la confrontation finale qui verra s'opposer Persée et Méduse, qui verra Persée chercher de biais le regard de Méduse et en finir avec la vie de cette dernière et la libérer, il faut, pour comprendre pourquoi Persée a cherché à la confronter, revenir aux sources mêmes de sa naissance, revenir au tout début de la vie, non pas celle de Persée, mais celle de sa propre mère, Danaé. Danaé est la fille du roi Acrésios. Acrésios est le roi d'Argos. Or, celui-ci, lorsque Danaé vient au monde, est déjà très âgé. Et il se désolait justement de ne pas avoir de fils. Alors, il fait ce que bon nombre de Grecs de son temps font. Il va consulter l'oracle et lui demander ce qu'il doit faire pour que les dieux veuillent bien lui accorder la naissance d'un fils qui viendrait à lui succéder sur le trône d'Argos. L'oracle, comme toujours, ne lui répond pas directement. Il lui confirme qu'il y aura bien un fils et que celui-ci lui succédera bien sur le trône d'Argos, mais que ce ne sera pas lui, son père. Il ne sera pas le fils d'Acrésios. Celui-ci est décontenancé. Non, c'est la fille d'Acrésios qui le lui donnera. Acrésios acquiesce, après tout, pourquoi pas? Un petit-fils pourrait tout à fait régner à sa place, le moment venu sur le trône d'Argos. Il se réjouirait presque de la nouvelle, trop content de cette prophétie qui semble aller pour une fois dans le bon sens. Seulement, il a oublié que bien trop souvent, les prophéties rendues par l'oracle ne sont pas heureuses. Elles sont bien trop souvent implacables, tragiques, et celle-ci n'ira pas à l'encontre de toutes les précédentes. Oh, Acrésios aura bien un héritier, le fils de sa fille, mais celui-ci, une fois atteint l'âge adulte, le tuera. Et là, Acrésios est choqué. Il ne se remet pas de l'annonce implacable que l'oracle vient de lui faire. Et lorsqu'il rejoint son palais en sa bonne ville d'Argos, il est troublé. Alors, bien sûr, sa reine donne naissance à une fille qui reçoit le prénom de Danaé. En hommage à Danaos, le premier roi d'Argos, Danaos, qui était le père des Danaïdes. Les Danaïdes, ces 50 filles qui ont voulu empoisonner leurs 50 maris et qui ont été précipitées par Zeus au plus profond du Tartare, où elles n'ont de cesse de remplir une amphore sans fond. Danaé est un très beau nourrisson, puis une très jolie petite fille et bientôt jeune femme. Et pourtant, Acrésios n'accueille pas la croissance de l'enfant et son développement avec joie, comme tout père le ferait. Acrésios est contrarié. Il a tant souhaité la perte et la mort de l'enfant. Oh, il aurait presque pu s'en charger lui-même, mais il sait que les dieux ne lui auraient jamais pardonné et qu'il n'aurait trouvé personne en Grèce ni ailleurs pour le purifier de cet acte contre nature. Alors il a une idée. Puisqu'il ne peut supprimer Danaé, il choisit de l'enfermer, de la priver de tout contact avec le monde extérieur. Il va donc commander à ses plus grands ingénieurs une gigantesque tour d'airain construite tout à côté de sa bonne ville d'Argos et un peu en retrait. Une fois les travaux de cette gigantesque tour achevés, il convie Danaé et sa nourrice à les suivre. Tout ce petit monde est accompagné par un peloton de gardes qui assurera ensuite la surveillance quotidienne des extérieurs de la tour afin de veiller à ce que personne ne puisse s'en approcher ni même y rentrer. Acrésios ouvre la gigantesque porte et pousse Danaé et sa nourrice à l'intérieur. Et à peine les deux femmes ont-elles franchi le seuil qu'Acrésios referme la lourde porte. Et voilà les deux femmes emprisonnées et réduites à une condition, certes pas misérable, mais moins flamboyante que celle qu'elles avaient connue jusqu'alors au palais d'Acrésios. Mais ce que Acrésios a voulu soustraire au regard des mortels, il n'a pu le soustraire au regard des immortels, au regard des dieux et au regard du plus grand, du plus flamboyant de tous, au regard du roi du ciel, Zeus, toujours à la recherche d'une nouvelle conquête. Zeus est amoureux tout le temps. À peine il croise le regard d'une mortelle, comme d'une déesse ou d'une nymphe, un feu ardent brûle en lui. Il a besoin de s'unir, de consommer cette passion, d'entretenir cette liaison. Il désire plus que tout qu'on lui ouvre les bras, et pas que les bras. Acrésios a donc puni Danaé, somme toute assez injustement. Zeus est au courant de la situation, il est omniscient, vous vous en doutez bien. Et si Acrésios a voulu soustraire sa fille au regard des mortels, Zeus entend lui de ne pas être privé de pouvoir contempler la jeune femme qui est parée des plus beaux atours. Danaé semble être pour l'époque une des jeunes femmes les plus belles de Grèce. Et Zeus semble déjà amoureux, transi. Il est prêt à tout pour s'unir à la jeune femme. D'habitude, il ne s'embête pas, il prend simplement l'apparence d'un mortel ou se transforme tout d'abord en quelque animal pour tromper la vigilance de la jeune femme et la conduire en un endroit isolé où il prendra l'apparence d'un mortel ou d'un demi-dieu pour ensuite s'unir à elle. Avec Danaé, c'est différent. Il ne peut prendre l'apparence de mortel sans alerter non seulement les gardes, mais le roi Acrésios. Alors il va user de cette métamorphose qui est si coutumière et qui est presque un jeu pour lui. se métamorphoser en une pluie d'or, une pluie caressante, une pluie douce qui va s'infiltrer jusque dans les joints, dans toutes les parties de la tour et venir caresser, venir toucher Danaé qui, elle, est allongée, alanguie, tout endormie dans son lit. Elle ne se rend pas compte, du moins au tout début, de ce qui lui arrive. Mais force est de constater que 9 mois plus tard, elle se voit affublée d'un gros ventre et elle comprend que cet enfant ne peut être que celui de Zeus. Or, elle sait très bien que la fureur de son père n'aurait d'égal que celle du roi du ciel. Si elle se refusait à nouveau à ses avances, il faut donc tout faire pour cacher l'enfant et pour éviter que ses premiers cris ne reviennent aux oreilles des gardes et donc par le fait aux oreilles d'Acrésios, qui pourrait vouloir faire disparaître l'enfant. Le petit garçon, puisque c'est un garçon, finit par voir le jour. Il est d'une forte constitution et porte de très jolies petites boucles blondes. Il reçoit le nom de Persée et semble déjà promis à un très bel avenir. Ce petit garçon est très costaud et il a aussi une voix très forte, une voix que Danaé et sa nourrice camouflent comme elles peuvent. Mais très vite, Acrésios est averti du tumulte qui semble régner dans la tour. Alors il la fait ouvrir. Et au moment où il ouvre la porte, ce n'est pas Danaé qu'il découvre en tout premier lieu. C'est Persée qui vient de faire ses tout premiers pas et qui s'approche, tout sourire, chancelant auprès d'Acrésios. Celui-ci est stupéfait. Et à la stupeur, laisse place à une colère froide. Il n'écoute pas les suppliques de Danaé et ses piètres excuses, comme quoi cet enfant serait celui de Zeus qui est venu la visiter sous la forme d'une pluie d'or. Enfin, c'est ridicule. Avoue plutôt que ta nourrice a laissé la porte ouverte et a permis à quelques gardes et autres hommes d'Argos d'entrer. Et d'ailleurs, Acrésios punit la nourrice en la faisant décapiter. Et il va aussi punir les gardes en les faisant massacrer parce qu'ils n'ont pas surveillé assez assidûment la tour. Acrésios n'a pas oublié la prophétie. Elle le terrorise, elle lui fait perdre ses moyens, elle le pousse presque à la folie. Il faut se débarrasser de Danaé. Il faut se débarrasser de l'enfant. Après tout, celui-ci va causer sa perte dans quelques années. Acrésios veut conserver son trône. Il choisit donc de se débarrasser des deux. Non, il ne va pas les tuer. Il va demander à son architecte de fabriquer une gigantesque caisse, un coffre des plus joliment ornés aux proportions de Danaé et de son enfant. Une fois cela fait, il les enferme tous les deux et jette le coffre à la mer. Ainsi, ce sera aux dieux de décider ou non de la vie ou du trépas de Danaé et de son enfant. Acrésios souhaite en son fort intérieur que Poséidon fracasse la caisse et les noie tous les deux. Or, ni Poséidon, ni la déesse Leto, ni aucun autre dieu ne frappera Danaé et son fils, et pour cause, Zeus les surveille. Il est hors de question qu'il permette à une quelconque divinité de porter atteinte à son fils. Il va donc faire en sorte que le coffre qui les contient tous les deux finisse par s'échouer non loin des côtes de l'île de Sériphos. Et c'est un pêcheur d'une noble lignée, justement, un certain Dictys qui les découvre. Dictys est un prince. Il est le frère du roi Polydectès, le roi de cette région. Polydectès est un roi tyran et il est surtout et de suite irrémédiablement frappé par la beauté de Danaé. Il ne souhaite qu'une chose, s'unir à elle au plus vite. Et il ne va avoir de cesse des années durant de poursuivre la jeune femme de toutes ses ardeurs. Mais celle-ci se refusera toujours à lui, protégée par Dictys. Et Persée va grandir. Il va grandir entouré de toute la bienveillance et de tout le soutien de Dictys, qu'il considère comme étant son père, et de toute la douceur et l'amour de sa mère. Lorsque Persée atteint ses 18 ans, le roi Polydectès, lui, se prépare à célébrer son futur mariage. Et il se trouve que la future épousée doit recevoir, comme il est de tradition, plusieurs présents. Chaque habitant du royaume doit donc consentir à faire une offrande. Il est recommandé d'offrir à la jeune femme des chevaux, tant elle a pour passion l'équitation. Polydectès a réfléchi un moment. Et si ce mariage et si cette offrande était l'occasion de se débarrasser du trop encombrant Persée qui veille un peu trop sur sa mère et lui permette enfin de conquérir Danaé et d'en faire son obligé et de pouvoir s'unir à elle? Oui, c'est cela. Persée ne pourra se refuser à lui accorder une offrande. Alors Polydectès lui demande ce que lui, Persée, va lui offrir alors qu'il ne possède rien, pas même sa propre chemise. Persée, piqué au vif, tout à la jeune fougue qu'il a de ses 18 ans, lui répond qu'il sera prêt à offrir au roi Polydectès tout ce qu'il voudra. Tout ce qu'il voudra ? Très bien. Polydectès lui réclame la tête de la méduse, la tête de Gorgone. Autant vous dire qu'un silence de mort se fait dans la pièce. Même les mouvements des couverts et les mouvements de mastication des convives qui se régalent d'un festin des plus parfaits comme ceux de d'habitude, tous ont fait silence, tous sont saisis d'horreur. Mais Persée court à sa perte, il ne peut accepter. Tous ceux qui ont été envoyés combattre le monstre ne sont jamais revenus. La Gorgone tue tous ceux qui osent s'approcher d'elle. Persée, lui, accepte. Oui, il lui ramènera la Gorgone. Et pourtant, Persée n'a pas mesuré au début à qui il doit s'adresser. Il ne sait même pas où se trouve l'antre de la Gorgone. Il ne sait trop que faire. Bref, Persée se rend compte quelques secondes plus tard qu'il s'est presque mis dans un pétrin impossible et qu'il va sans doute devoir déclarer forfait à son plus grand désespoir. Alors qu'il est en train de ruminer, il reçoit la visite d'Hermès. Hermès est un des rares dieux qui peut apparaître aux mortels. C'est le messager entre le monde des dieux, entre l'Olympe, et le monde mortel. Et de surcroît, il est le demi-frère de Persée. Mais Persée ne sait rien de son ascendance divine, du moins pour l'instant. Hermès, tout à sa fougue et à sa joie habituelle, explique donc à Persée comment il va pouvoir accomplir sa tâche. Il lui fournit une sorte de faucille qui va lui permettre de découper la tête de Méduse. Cet instrument est le plus tranchant qui ait jamais existé et qui ressemble à une sorte de serpe. Il lui donne également ses sandales ailées. Il n'aura qu'à les porter et se laisser glisser au-dessus de l'azur. Les sandales le guideront là où se trouvent tout d'abord les grès auxquels il pourra demander ensuite où se trouve l'antre de Méduse. Et ensuite, il lui offre un cadeau qui ne vient pas de lui, Hermès, mais un cadeau qui vient de la déesse Athéna, parce que si certaines divinités sont remplies de bienveillance pour Persée, Athéna a décidé de lui apporter son concours et elle lui offre son plus beau bouclier qui a tellement été poli qu'il ressemble à un miroir. On s'y mire dedans. Ce bouclier est magnifique et va devenir un des principaux instruments ensuite de la victoire de Persée. Ainsi paré de ses nouveaux atours divins, Persée prend donc la direction, grâce aux sandalies d'Hermès, du territoire des Grées. Parce que si Méduse, elle, vit aux confins du monde, presque à la limite du monde mortel et des immortels, les Grées, elles, vivent dans une grotte non loin de là. Elles ne se cachent pas des humains. Ceux-ci viennent les solliciter et pour les chanceux qui en ressortent, ils en ressortent suffisamment traumatisés pour n'arriver à en parler. Car les Grées ont tendance à certes dévoiler un avenir, mais à faire payer à tous ceux qui la consultent le prix de leur vie en les dévorant avec l'aide de leurs seuls et uniques dents. Persée a donc compris qu'il va lui falloir user de la ruse. Car les Grées sont au nombre de trois et chacune se dispute la possession de l'œil et donc la possession de la dent. Et elles vont se le disputer et se faire passer de l'une à l'autre ce fameux œil. Et Persée a remarqué qu'il y a un moment, un temps de latence, où cet œil est presque suspendu dans le vide entre une des trois Grées. Et c'est à ce moment-là qu'il va devoir se saisir de cet œil. Persée n'attend pas et il finit par attraper l'œil et se saisir aussi rapidement que l'éclair de la dent. Et voilà qu'il soumet les Grées. Il sait surtout qu'il ne doit leur poser qu'une seule question. Où est l'antre de Méduse? Pardon, et comment s'y rendre? Les Grées lui supplient de lui rendre ce qui leur appartient. Persée accepte, mais à condition qu'elle lui donne ce qu'il lui demande. Les Grées finissent par indiquer à Persée où se trouve Méduse, aux confins de l'île de Sériphos, mais qu'il doit faire très attention au regard de Méduse. Persée finit par arriver tout près du temple. Il observe avec fureur et avec tristesse les corps statufiés de tous ceux qui, avant lui, se sont frottés, ont voulu essayer de combattre Méduse. Il sait qu'il ne peut la regarder directement dans les yeux. Athéna lui suggère donc de se servir de son bouclier comme d'un rétroviseur. Grâce à l'effet ultra-polissant du bouclier, qui est comme un miroir, il peut donc voir Méduse arriver sans la regarder directement et donc utiliser sa faucille en conséquence. Persée est rapide comme l'éclair. Il se saisit de son bouclier, le fiche au sol. Il observe Méduse se rapprocher. Oh, il est transi de peur! Il voit ce monstre. Oh, Méduse est bien loin de toutes les descriptions qu'on peut lui faire. C'est qu'il la trouverait presque belle pour le haut du corps. Mais le reste le terrifie. Mais il garde en tête son objectif. Il utilise son bouclier. Et au moment où il sent presque le souffle de Méduse dans son dos, il se saisit de la faucille et donne un coup sec pour trancher la tête de Méduse. Je vous ai dit que Sthéno et Euryalé, au tout début, ses deux autres sœurs, les deux autres gorgones, étaient immortelles. Ce n'est pas le cas de Méduse. Son sang se répand bientôt sur les escaliers, ces quelques marches à l'entrée du temple d'Athéna. Méduse est libérée. Persée l'a libérée. Et de cette mort, de cette fin, vont naître deux personnages. L'enfant à l'épée d'or, tout d'abord, et également Pégase. Ces deux naissances viennent de la semence de Poséidon, introduite, vous vous en souvenez, de force lorsque celui-ci a violé Méduse alors qu'elle était encore humaine à l'intérieur du temple d'Athéna. Et justement, Pégase va permettre à Persée de rejoindre le royaume de Polydectès. Mais avant, il va faire un crochet, justement par Argos, et il va se retrouver confronté à la situation suivante. Il voit une jeune femme attachée à un rocher qui semble être à deux doigts de se faire dévorer par un des monstres les plus hideux qui soit, une sorte de monstre marin qui semble ressembler presque à un kraken. Cette jeune femme, tout en beauté qui resplendit, c'est Andromède, la fille de la reine Cassiopée. Celle-ci a manqué de respect à une déesse, qui n'est autre qu'Aphrodite, en affirmant que sa beauté et celle d'Andromède dépassaient largement celle de la déesse, qui n'a pas du tout apprécié la chose et qui a donc puni Cassiopée et Andromède, forçant celle-ci à devenir le sacrifice humain de cette créature monstrueuse. Et là, Persée va se servir non pas d'abord de la faucille, mais de la tête de Méduse pour statuifier la créature et ensuite lui porter le coup fatal. Et Persée finit avec Andromède par regagner le royaume de Polydectès. Lorsqu'il arrive et qu'il retrouve son père Dictys, celui-ci lui apprend les basses manœuvres de Polydectès. Oh, il est bien marié! Mais ce mariage n'était que de la poudre aux yeux pour au final s'emparer de Danaé, en faire sa prisonnière, la soumettre, lui ordonner de lui donner des fils. Persée est fou de rage. Il confie Andromède aux bons soins de son père adoptif et se précipite au palais de Polydectès. Celui-ci, justement, est en compagnie de son épouse et du reste de sa cour. Danaé n'est pas là. Persée entre dans la salle où l'on festoie, où l'on mène grand train. Polydectès est stupéfait. Un mauvais frisson commence à le parcourir. Comment cela est-il possible? Personne n'avait pu vaincre jusque-là la Gorgone. Polydectès lui demande s'il a bien son offrande, s'il a bien accompli sa mission. Persée ne répond pas. Et au lieu d'acquiescer tout simplement, il dégaine de sa besace la tête de Méduse, la présente devant Polydectès et sa cour. Et Méduse, qui a gardé son pouvoir de stupéfaction, pétrifie tous ceux présents dans la pièce. Polydectès et toute sa cour est donc figée en pierre. Et voilà donc Dictys qui devient à sa place le roi de ce territoire. Mais Persée n'en a pas fini avec Méduse. Il souhaite apporter à Athéna la tête de celle-ci et lui rendre son bouclier. De fait, il peut compter sur Pégase, qui l'amène presque à la limite jusqu'où un mortel peut se rendre dans le ciel pour croiser les dieux. Car il ne faut pas aller trop haut, il ne faut pas tenter de soi-même devenir plus qu'un dieu. Athéna accueille Persée, le remercie, et elle va faire en sorte d'accrocher la tête de Méduse, de la fixer définitivement sur son bouclier, parce qu'elle sait et parce qu'elle a regretté dès qu'elle a prononcé ces quelques mots qui ont former Méduse en ce monstre hideux. Elle a regretté son acte, mais elle ne pouvait revenir en arrière. Alors elle a intercédé, alors elle est devenue celle qui a guidé Persée. pour lui permettre, par justement son coup de faucille, de la libérer, pour lui permettre enfin de trouver le repos, loin de Poséidon, loin de cet acte immonde qui l'aura condamné à une solitude et à une apparence digne du plus grand de tous les monstres. La Gorgone est devenue pour la culture populaire un monstre implacable qui pétrifie tous ceux qui s'approchent d'elle, qui fait du mal volontairement, ce monstre dont il faut se débarrasser. Or, tous ceux qui répandent de tels récits ont oublié la réelle condition de Méduse et toute l'injustice qui a été autour d'elle. Méduse est un des personnages dont la destinée est la plus tragique, celle qui recueille l'injustice la plus grande, celle qui a été le jouet de Poséidon pour une querelle futile avec Athéna, celle dont Poséidon ne s'est pas préoccupé après qu'il ait eu ce qu'il ait voulu. Méduse a tant subi, alors Athéna lui permet d'une certaine façon de trouver le repos. Certes, Méduse a dû le payer de sa vie, mais elle n'est pas la seule qui, après la mort, a fini par trouver un peu d'apaisement auprès des dieux de l'Olympe. La mythologie et les dieux grecs sont aussi intransigeants, furieux, intelligents, roublards, peureux, colériques que ne le sont les humains. Après tout, n'ont-ils pas conçu, n'ont-ils pas pensé, n'ont-ils pas façonné les humains presque à leur image? Que devons-nous penser de ce que Méduse a subi? Devons-nous penser qu'elle était responsable de son sort? Le sort de Méduse peut nous faire réfléchir encore aujourd'hui sur la condition des femmes, rendues responsables par certains de leur beauté, rendues responsables des viols et des attouchements qu'elles subissent. Après tout, elles l'ont cherché, elles sont trop belles, elles s'habillent de manière trop suggestive. Il faut remonter à bien des années, bien des siècles, pour trouver des accusations semblables. Et ces accusations s'inscrivent justement dans le mythe de Méduse. Dans cette pauvre jeune femme qui a dû attendre sa mort pour se libérer d'une condition qu'elle n'avait pas choisie. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast des Bulles de l'Histoire.